Donc, bonjour à tous. Donc, je suis heureux ce matin de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu en ce jour qui est très particulier, comme l'a rappelé Abdel, c'est la fête chrétienne par excellence. S'il y a une fête à ne pas louper, c'est la fête de Pâques. Et c'est la fête la plus importante. Paul nous dit que si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc, toutes les autres fêtes perdent complètement leur sens. Quand j'ai pensé au message de Pâques, il y a un mot qui est venu dans ma tête, c'est le mot « levain ». Le levain. Et du coup, évidemment, il y a un passage de l'Écriture dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 5, qui nous parle du lien entre la Pâque et le levain. Et c'est le texte que je vais prendre avec vous ce matin. Donc on va lire toujours dans une traduction à partir de la Pshita araméenne, on va lire 1 Corinthiens 5, les versets 6 à 8. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Donc je vous le lis. Votre sujet de gloire n'est pas beau. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait fermenter toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, comme vous êtes des azimes, c'est-à-dire des pains sans levain. Car notre Pâque, en effet, c'est le Messie, celui qui a été immolé pour nous. À cause de cela, fêtons la fête non avec le vieux levain, ni avec le levain de méchanceté et d'amertume, mais, et écoutez bien puisque cela change par rapport aux traductions que vous avez, mais avec le levain de pureté et de sainteté. Je pense que dans les traductions que vous avez, il est dit de célébrer avec le pain sans levain de pureté et de sainteté. Or ici, la Pshita a une variante très intéressante, non pas du pain sans levain, mais au contraire avec le levain de pureté et de sainteté. Donc je vais en parler ensuite. Voilà, que le Seigneur puisse bénir sa parole. Alors, pour commencer, pour que cela soit clair pour tout le monde, je donne quand même l'enchaînement de ce texte que je viens de lire. Parce qu'on y distingue deux étapes. Dans une première étape, il s'agit d'enlever le vieux levain. Et dans les versets qui précèdent, Paul dénonce les désordres qu'il y avait dans l'église de Corinthe. Et donc il dit « d'ôter le vieux levain pour devenir une pâte sans levain, c'est-à-dire une pâte azime ». Mais ensuite, il dit de célébrer la fête de Pâques avec cette fois-ci du levain, un levain de pureté et de sainteté. Donc il ne s'agit pas de rester comme du pain sans levain, il s'agit ensuite d'injecter un nouveau levain, le levain de pureté et de sainteté. Alors je rappelle brièvement l'enchaînement des fêtes de l'Éternel, vous savez que dans la parole il y en a sept. La première fête au printemps, c'est la fête de Pâques. Et le premier jour de la fête de Pâques commence une série de sept journées, donc de la fête des pains sans levain. Et ça, vous le trouvez dans Exode au chapitre 12, où il était dit qu'il fallait soigneusement enlever tout le levain de la maison pour que pendant une semaine, à commencer du premier jour qui est le jour de Pâques, la maison soit sans levain. Donc la fête de Pâques est accompagnée de la deuxième fête, la fête des pains sans levain, et de la troisième fête, qui est la fête des prémices. Et c'est Paul qui, dans 1 Corinthiens 15, au verset 20, nous dira que Jésus, par sa résurrection, est les prémices de la grande moisson qui apparaît évidemment lors de la quatrième fête de printemps, c'est-à-dire la Pentecôte. Vous voyez, la Pâque, pain sans levain, les prémices, la Pentecôte. Ce sont les quatre fêtes du printemps. Et ensuite, vous avez les trois fêtes d'automne. La fête des trompettes. Pour ceux qui lisent le livre de l'Apocalypse, vous savez que pendant toute l'ère messianique résonnent les trompettes, qui sont la marque de la souveraineté de Jésus. Ensuite, la sixième fête, c'est le fameux jour du grand pardon, le Yom Kippour. Là encore, il suffit de lire l'Épître aux Hébreux pour voir que Jésus célèbre depuis 2000 ans cette sixième fête du Yom Kippour, pour ceux qui entrent en alliance avec lui par son sang. Et enfin, la septième fête, c'est la fête des tabernacles, Dieu tabernaclera avec nous pour l'éternité. C'est la fête que nous allons fêter pour l'éternité. Donc voilà, c'était un petit rappel des sept fêtes de l'Éternel. Et donc aujourd'hui, on est préoccupé avec la fête de Pâques et la fête des pains sans levain. Donc pour ne pas trop perdre de temps, donc le message d'aujourd'hui va être constitué de trois parties. On va donc voir d'abord la version négative du levain dans la parole. Dans un deuxième temps, la version positive, puisque le texte syriaque de la Pshita nous parle d'un levain de pureté et de sainteté. Et enfin, dans un troisième temps, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Donc voilà comment on va considérer les choses ce matin. Alors d'abord, quand il est question de levain dans la parole, ça a une connotation négative. Jésus va dénoncer en particulier le levain des pharisiens et des sadducéens. Par exemple, dans Matthieu 16, voyez et gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et Jésus précise que, évidemment, il ne s'agit pas de pain matériel, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. C'est un enseignement qui est comme une fermentation qui fait lever non pas la pâte, mais la chair religieuse, la chair intérieure, la chair orgueilleuse. Il y a des formes d'enseignement qui exaltent notre chair, qui nous remplissent de nous-mêmes. Ça, c'était le levain des pharisiens et des sadducéens, le levain de la fausse religion. Comme le dit Jésus, ce levain désigne une doctrine qui est fallacieuse. Mais ce n'est pas le seul levain que Jésus dénonce. Il y a également dans Luc 12 le levain de l'hypocrisie. Et ça va bien avec la première chose, une doctrine fausse qui va donner une belle apparence extérieure, mais ne va pas changer l'intérieur. Ça, c'est le levain de l'hypocrisie. Donc on voit que dans ces deux premières dénonciations de levain des pharisiens et des sadducéens, ce qui est dénoncé par Jésus, c'est un type d'enseignement qui va embellir la chair, mais ne va pas la transformer. Donc une belle apparence extérieure, mais l'intérieur ne change pas. Mais étonnamment, il y a un autre levain que Jésus dénonce également, c'est le levain d'Hérode. C'est dans Marc 8. Gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Autant le levain des pharisiens et des sadducéens est un levain religieux, autant le levain d'Hérode est un esprit politique, mondain, opportuniste, voire meurtrier. Autrement dit, il y a deux types de levain qui se complètent l'un l'autre. C'est le levain religieux et le levain politique. Et nous savons dans la parole que quand les deux se mélangent, c'est un mélange détonnant. Et il en est ainsi de ceux qui allient, et ou essayent d'allier, le spirituel et le temporel, le terrestre, le charnel et le diabolique. Et on retrouve là, alors étonnamment, Sheikh Abdel a dénoncé juste avant, on ne s'était pas concerté pour ça, mais ça m'est venu fortement, quand on voit chez certains chrétiens un engagement politique qui va, comme il a été dit, et je me joins à cette parole, jusqu'à dénoncer les guerres, voire à les applaudir en les présentant comme des guerres au nom de Dieu. Ça, c'est le levain d'Hérode. C'est utiliser la religion à des fins guerrières et meurtrières. Et nombre de chrétiens en particulier défendent ainsi un royaume d'en bas. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de servir l'Antéchrist. Et je pèse mes mots, c'est-à-dire une bête politico-religieuse. L'esprit chrétien est vraiment très 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 loin de ça. L'esprit chrétien est en train de paix. Et nous laissons à Dieu d'exercer les jugements, comme on le voit dans l'Apocalypse, au travers des sceaux, des trompettes et des coupes. Mais ce n'est pas à nous, en tant que chrétiens, que d'exercer ces jugements, encore moins de lancer des croisades ou des grandes guerres, et encore moins de dire qu'on le fait au nom de Dieu. C'est assez hallucinant d'entendre des chrétiens dire ce genre de choses. Et pourtant, nous sommes en ce temps-là. Donc je voulais le dire aussi, Donc le levain des Sadducéens et des pharisiens, un levain religieux, mais le levain d'Hérode est un levain politique. Et à nouveau, quand le politique se mêle au religieux, ou le religieux plutôt se mêle au politique, ce n'est pas pour défendre le royaume de Dieu qui n'est pas de ce monde, mais malheureusement pour défendre un autre royaume qui est d'en bas. Ça c'est important, parce que lorsqu'on tolère dans nos vies de tels levains, qu'ils soient religieux ou politiques, comme le dit Paul dans Galates 5 au verset 9, et comme ici dans 1 Corinthiens 5 verset 6, on fait lever toute la pâte. Non seulement notre pâte intérieure, c'est-à-dire nous-mêmes, mais on peut faire lever toute une église, toute une dénomination avec un petit levain. Je ne sais pas si certains ici d'entre nous ont vu le film Inception. Inception. C'est un film très étonnant où il est montré comment une toute petite idée peut changer complètement le cours d'une vie. Donc, ceux qui n'ont pas vu ce film, vraiment, je le recommande. C'est un film un petit peu futuriste, mais ça m'avait beaucoup frappé quand j'avais vu ce film de penser qu'une toute petite idée pouvait changer tout le cours d'une vie. C'est un petit peu comme ça, le levain. Le levain, si ce n'est pas du bon levain, ça va orienter la vie vers le mal. Donc j'avais eu l'occasion la dernière fois, lors de mon message précédent, de dénoncer certaines manières de penser qui pouvaient complètement détourner la vie du chrétien et l'éloigner du monde réel, de la réalité de l'expérience avec le Seigneur, et l'orienter vers des raisonnements fallacieux. Donc voilà, je ne vais pas beaucoup insister plus, mais c'est pour dire donc que Paul, dans le passage que nous regardons aujourd'hui, dit d'abord à ces Corinthiens qui vivaient dans le désordre, nous devons ôter le vieux levain. Mais il ne s'arrête pas là. Et c'est ça qui est intéressant quand on regarde le texte de l'Apshita. Il dit que c'est bien d'être du pain sans levain, du pain azim, mais il nous dit ensuite qu'il faut recevoir le levain de pureté et de sainteté. Souvent, quand on parle de levain, donc comme je l'ai dit juste avant, on pense à des choses négatives, mais la parole a également une parole positive concernant le levain. Et on trouve cela dans Matthieu 13, au verset 33, et son parallèle dans Luc 13, versets 20 et 21, où Jésus dit la chose suivante, c'est une parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et caché dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Donc là, c'est intéressant, le royaume de Dieu est semblable à du levain. Et c'est bien le cas. Ça fait penser à cet autre passage où il est dit que le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences du jardin, mais qui devient grand comme un arbre. Et là, il est dit de la même manière que ce levain, le levain du royaume de Dieu, il est caché dans 3 mesures de farine. Donc vous voyez que là, on a cette fois une image positive du levain. C'est l'image du royaume de Dieu. Et bien évidemment, ce levain du royaume de Dieu qui est planté en nous, ce levain n'est autre évidemment que Jésus lui-même. Jésus qui grandit en nous et fait lever toute la pâte de l'homme nouveau, de l'homme spirituel. Et donc l'image du levain cette fois, c'est l'image de cette vie divine qui agit lentement, mais constamment, par la puissance de l'Esprit, et qui nous transforme de l'intérieur. Vous voyez, exactement à l'opposé du levain des pharisiens, qui ne changeait absolument pas leur vie intérieure, leur donnait juste une belle apparence. Et ce qui m'a frappé donc dans le texte de la Pshita que j'ai lu ce matin, c'est qu'il n'est pas fait, il n'y a pas de contraste dans ce texte-là entre avoir un levain mauvais ou ne pas en avoir. C'est ce que vous avez dans vos traductions en français. En tout cas, toutes les traductions à partir du grec nous parlent de célébrer la Pâque avec un pain sans levain. Or, aucune des variantes du texte grec ne montre cela. montre le levain dont je parle, le levain du royaume de Dieu. Tous les textes grecs nous parlent de célébrer la Pâque avec un pain sans levain. Donc, on enlève le levain de la méchanceté, le levain de l'hypocrisie, et on se retrouve sans levain, là où la parole nous parle de ce levain du royaume de Dieu qui doit grandir en nous. Donc vous voyez, là, c'est une différence fondamentale entre les textes grecs et le texte de la Pshita. Donc, évidemment, je vais y rendre ça un peu plus concret par ailleurs, après. Mais donc, le contraste n'est pas entre avoir du levain des pharisiens ou ne pas en avoir, c'est, dans la Pshita, se débarrasser du levain mauvais et manger du pain avec du levain du royaume de Dieu. Donc l'ancien levain, évidemment, c'est la vieille humanité, c'est le vieil homme, et le vin, le nouveau levain, si je puis dire, c'est l'homme nouveau uni à Jésus. Donc vous voyez qu'il ne suffit pas de se débarrasser du vieux levain, ça c'est ce que font les religieux. On se débarrasse, on essaye en tout cas de se débarrasser du vieil homme. Mais comme le dit Jésus dans une autre parabole, si la maison a été vidée, nettoyée et ornée, mais que par ailleurs elle reste vide, c'est très dangereux, parce que le vide ne reste pas vide longtemps. Et si ce n'est pas Jésus qui vient vivre en nous, il y a autre chose qui vient. Donc pour conclure avec ce point-là, dans la Pshita araméenne, le contraste n'est pas entre le mauvais levain et l'absence de levain, mais entre un levain ancien qu'il s'agit d'ôter et un levain nouveau qui va prendre sa place. Et évidemment, le parallèle immédiat qui vient lorsqu'on considère cette approche du levain, c'est l'idée de se dépouiller du vieil homme, la vieille manière d'être, les vieilles habitudes, les vieilles logiques, la vieille pâte travaillée par la chair, c'est-à-dire la religion charnelle, c'est-à-dire l'orgueil, la malice, l'amertume, se débarrasser du vieil homme, c'est-à-dire ôter le vieux levain, mais également revêtir l'homme nouveau, la vie du royaume, une fermentation qui est sainte en nous, autrement dit la croissance intérieure de Jésus en nous, et ça, c'est se nourrir du pain nouveau. Donc la Pâque, c'est pas simplement ôter le vieux levain, mais c'est se nourrir du nouveau levain. Et ça, c'est important, parce que dans l'ancienne alliance, comme je vous l'ai dit au départ, on fêtait une fête de 7 jours, et le premier jour était le jour de Pâques, et ensuite 7 jours de pain sans levain. Mais ça s'arrêtait là. Le pain sans levain était accompagné d'herbes amères, mais il n'y avait rien d'autre. La Pâque et le pain sans levain. Et la nouveauté de la nouvelle alliance, c'est de ne pas simplement nous laisser sans levain, l'ancien levain, mais d'injecter en nous, par l'esprit, un ferment nouveau, un levain nouveau, qui est le ferment du royaume. Et ça, c'est la nouveauté de la nouvelle alliance. Ça veut dire quoi concrètement? Plus concrètement, évidemment, dès qu'on parle de pain sans levain, on pense à la nourriture, manger du pain. Et c'est évidemment le thème majeur que Jésus va développer, par exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Jésus lui-même se donne comme pain à manger. Je suis le pain de vie. Celui qui mange de moi aura la vie éternelle. Et c'est intéressant, parce que si je fais le lien avec ce que j'ai dit avant, est-ce que Jésus se donnant comme pain de vie est un pain sans levain? Je pense que non. Il est le pain de vie avec le levain du royaume de Dieu. Autrement dit, en se donnant à nous, en nous donnant son corps à manger, il nous donne un pain qui est fermenté du royaume de Dieu. Et donc, manger le pain de vie, c'est manger ce pain fermenté par le levain du royaume de Dieu. Et donc là, on a l'expression de la communion réelle avec la personne du Messie. Et donc, on voit ici que il ne s'agit pas simplement de recevoir l'enseignement de Jésus, mais il s'agit également de recevoir Jésus en nous, qui est le levain du royaume de Dieu au travers du corps qui nous donne à manger. Je vais faire un parallèle un petit peu osé. Vous savez que dans beaucoup de cultures anciennes, manger quelqu'un, là je parle bien d'anthropophagie, manger une victime pouvait symboliser l'appropriation de sa personne, de sa force, de sa qualité, de sa vie. Et dans Jean 6, et cette fois évidemment de manière symbolique, cette vérité-là, pratiquée dans certaines anciennes cultures, est transfigurée. Manger le corps du Messie et boire son sang, c'est communier à sa vie et recevoir en soi sa pureté, sa sainteté, sa vie incorruptible. C'est ce que nous faisons normalement lorsque nous prenons la scène. Nous mangeons le pain, nous buvons le vin. Mangez mon corps, buvez mon sang. Le sang, évidemment, correspond à la culpabilité. Il y a nombre de passages dans la Nouvelle Alliance qui associent le sang de l'agneau avec le pardon des péchés. Et nous voulons tous que nos péchés soient pardonnés. Qui ici ne veut pas que ses péchés soient pardonnés? Non. Nous voulons tous que nos péchés soient pardonnés. Mais ce qui nous transforme, c'est de manger du pain de vie. Donc c'est une chose que d'être au bénéfice du pardon de nos péchés par le sang de l'Alliance, mais il nous faut également manger le pain de vie pour que notre vie soit transformée. Et c'est ça le problème chez certains, c'est que on veut bien du pardon des péchés, mais on ne veut pas passer par la croix, c'est-à-dire manger de ce pain de vie qui m'oblige également à ôter le vieux levain pour pouvoir me nourrir du levain nouveau. C'est ce que j'ai eu l'occasion également de dire la dernière fois, souvenez-vous, quand je parlais de Bonhoeffer, qui disait « Il y a une grâce au bon marché où je veux bien que mes péchés soient pardonnés, mais cette grâce ne me transforme pas intérieurement. » Et il y a la grâce de Dieu qui nous coûte. Qui coûte quoi? Qui coûte notre vie. Et c'est cette grâce-là qui nous permet de nous nourrir du pain fermenté du levain du royaume de Dieu, fermenté du levain de la vie divine. Donc boire la coupe sans consentir à la croix, c'est ne pas manger le pain de vie. C'est vouloir le pardon de Dieu pour nos péchés, mais sans la transformation. Autrement dit, le pardon de nos péchés pour continuer le péché, mais sans la transformation intérieure, sans ce levain du royaume de Dieu en nous. Et je vais le préciser encore un petit peu plus dans la troisième partie ce que cela veut dire. Donc faisons bien attention à ça. Le religieux vise le pardon des péchés, mais pas la transformation intérieure. Ce qui me permet d'aborder maintenant la troisième partie du message. Et vous voyez qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire très très lent. La dernière fois, le message avait duré une heure, je crois. Pour être encore plus pratique, donc, que signifie manger le corps du Messie? Là encore, Jésus nous donne la réponse. Dans Jean 4, au verset 34, Jésus dit la chose suivante. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et c'est là le point déterminant. À nouveau, on peut boire de la coupe et voir ses péchés pardonnés. Mais je peux avoir mes péchés pardonnés jusqu'à la fin de ma vie si je ne mange pas du pain de vie. Ma vie n'est pas transformée et je continue à produire du péché. Mais là, Jésus nous dit dans Jean 4, que la nourriture de Jésus, sa nourriture, c'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, donc le Père Céleste. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas simplement par les anges, que ta volonté soit faite par moi, par nous. C'est un appel en fait à faire la volonté du Père. Et on ne peut faire la volonté du Père que si on mange de ce pain de vie, ce pain levé par le levain du royaume de Dieu. Donc la communion avec Jésus en clair. Comme je le dis souvent, je le répète encore ici, Les œuvres à accomplir ne sont pas des œuvres dont nous avons l'initiative. Ce sont des œuvres préparées d'avance, et même, pour être encore plus simple, ce n'est même pas nous qui les pratiquons, c'est Jésus qui les pratique en nous et au travers de nous, si nous devenons membres de son corps. Donc voilà très concrètement ce que cela signifie que manger du pain de vie, c'est se trouver entraîné dans une aventure qui consiste à faire la volonté de Jésus, la volonté du Père, avec Jésus, donc qui nous associe à ses œuvres, à lui. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et donc l'on voit que manger du pain de vie, c'est entrer dans une relation d'obéissance avec le Seigneur. Donc, vous voyez, quand on prend le vin et quand on prend le pain à la scène, c'est aussi de cela dont nous témoignons. Non seulement que le Seigneur nous pardonne nos péchés, la coupe du vin, mais également que nous sommes disposés à faire sa volonté, le pain de vie. Et la Pâque est indissociable de la fête des pains sans levain, indissociable de ce travail que la Nouvelle Alliance complète, enlever le vieux levain et manger du pain levé avec le levain du royaume de Dieu. Donc les deux sont indispensables. C'est ce que dira Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 6. Si nous sommes unis avec lui et devenons avec lui une même plante en sa mort, alors nous serons également avec lui une nouvelle plante en sa vie. Devenir une nouvelle plante avec lui en sa mort, c'est se débarrasser du vieux levain, c'est la repentance, c'est l'œuvre de la parole et de l'esprit en nous. Et être uni avec lui comme une même plante dans sa vie de résurrection, c'est partager, du coup, être rendu participant de ce pain de vie fermenté au levain du royaume de Dieu. Donc, à nouveau, faisons attention, nous voulons souvent, comme je l'ai dit, le pardon des péchés, mais voulons-nous accomplir la volonté de Dieu? Ça, c'est une autre chose, la question de l'obéissance, qui est indispensable et indissociable d'une foi vivante. C'est ce que Jésus va dire par ailleurs, par exemple, dans Matthieu 4, au verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors évidemment, si la parole sort de la bouche de Dieu, c'est pas simplement pour l'écouter, ou, comme je l'ai dit la dernière fois, alors dans mon dernier message, simplement pour raisonner, pour calculer. Mais il s'agit évidemment d'accomplir la parole. Et on a l'exemple terrible, évidemment, dans Matthieu 7, au verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc là, ça ne peut pas être plus clair. À un moment donné, il faut s'engager dans l'obéissance, la voie de l'obéissance pour faire la volonté du Père. Et ce n'est bien évidemment possible que en communion avec Jésus, et cette communion avec Jésus, symboliquement de la parole, consiste à manger le corps du Messie, qui est un pain de vie, et je le répète à nouveau, qui contient ce levain de vie. Et on retrouve encore la même idée dans Jean 6, au verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusque dans la vie éternelle. Et la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, là encore, c'est de faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Et donc, comment savoir si on fait la volonté de Dieu ou pas? Parce que c'est souvent ça le dilemme, en fait, notre dilemme, c'est, mais est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Eh bien, retournons la question différemment. Est-ce que je prends du temps pour communier avec le Seigneur? Dans la méditation, dans le partage avec les frères et les sœurs, dans la prière, dans la louange, est-ce que je prends ce temps de communion avec Jésus? Parce qu'en fait, la volonté de Dieu ou les œuvres préparées d'avance se présentent devant nous par dans la souveraineté du Seigneur si nous faisons la seule chose qui nous est au fond demandée de faire. Et c'est de prendre ce temps de communion avec Jésus. Vous voyez, On peut se poser des questions comme ça, est-ce que je fais la volonté de Dieu, est-ce que ça, ceci ou cela, c'est dans la volonté de Dieu, est-ce que je fais les œuvres préparées d'avance, et on oublie que pour entrer dans les œuvres préparées d'avance, nous avons une seule chose à faire, une seule. Comme Marie qui s'était assise aux pieds de Jésus, et il ne faisait qu'une seule chose, elle écoutait. Elle écoutait la parole de Dieu, elle écoutait Jésus, elle communiait avec Jésus, et le reste découle. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, le reste est donné, le reste est mis devant nous, le reste, nous y sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Mais le moteur de tout cela, c'est se nourrir du pain de vie, c'est communier avec Jésus, comme je l'ai dit, par les moyens de grâce qui nous sont donnés, par la prière, la louange, la méditation, le partage de la parole ensemble, toutes ces choses-là qui sont là pour nous rapprocher toujours plus de Jésus. Ça, c'est la source et tout le reste découle de là. Donc, vous voyez, la vie chrétienne, elle est très simple, en fait, et on se complique énormément par nos raisonnements, par nos calculs. Donc, Jésus, c'est la vraie nourriture qui vient de Dieu et c'est cette nourriture-là qui nous mène à la vie éternelle. J'aime beaucoup donc lire le chapitre 6 de l'évangile de Jean, dont Jésus dit « Je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » À nouveau, c'est très étonnant comme image. Pour les religieux de l'époque, quand Jésus a prononcé ces paroles, ça a été un véritable scandale. Quoi ? Il nous donne son corps à manger ? Il nous donne son sang à boire, comme si nous étions des païens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des cannibales, des anthropophages. Ça a été une parole très choquante pour les religieux. Mais pour nous, avec la révélation de la Nouvelle Alliance, comme je l'ai dit, il s'agit de communier avec Jésus. Et c'est exactement ce qu'a dit Abdel tout à l'heure. On ne peut pas communier avec quelqu'un. C'est la pensée que j'ai eue quand Abdel a dit ça tout à l'heure. On ne peut pas communier avec quelqu'un en lui offrant le pain et en partageant le pain et en le trahissant par derrière. Et la pensée qui m'est venue en écoutant cette parole-là, donc une coutume orientale qui est très 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 puissante, je lui dis, mais pas étonnant que lorsque Judas a pris le pain de la main de Jésus, Satan soit immédiatement entré en lui. Vous voyez ? Des fois on peut se demander, mais pourquoi est-ce que Satan est entré en lui au moment où Jésus a donné du pain à Judas ? Mais c'est parce qu'il trahissait la plus sacrée des lois de l'hospitalité. On ne trahit pas quelqu'un avec qui on partage le pain. Judas a partagé le pain alors qu'il savait très bien qu'il allait trahir Jésus et immédiatement Satan est entré en Judas. À l'aune de cette coutume-là, on peut repenser à ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 11 quand il dit que quand on prend le pain indignement, quand on boit de la coupe indignement, Paul dit « Beaucoup sont malades et certains sont morts. » J'ouvre une petite parenthèse. Souvent, nous voulons prier pour les malades, mais nous ne nous demandons pas est-ce qu'il s'agit d'une maladie de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a permise pour telle ou telle raison, ou alors est-ce qu'il s'agit en fait d'une discipline de Dieu, parce que nous prenons de la coupe, ou nous buvons de la coupe, ou nous prenons le pain de manière indigne. Donc avant que de prier pour les malades, il est quand même bien de savoir ce qui se cache derrière. Et demander quelle est la pensée de Dieu par rapport à cela. Mais voilà, cette question du pain partagé en relation avec l'hospitalité et la trahison, ça m'a beaucoup frappé tout à l'heure. Paul, quand il parle encore de nourriture, toujours pareil en relation avec ce pain de vie que nous devrions manger, il dit aux Corinthiens, au chapitre 3, que, et on le voit à cause des désordres qu'il y avait à Corinthe, Paul ne pouvait pas encore leur donner de nourriture solide. Mais il était encore obligé de leur donner du lait. C'est-à-dire qu'il y avait, le levain du royaume de Dieu ne faisait pas son œuvre dans les Corinthiens. Et Paul a dû leur redonner le lait, c'est-à-dire les rudiments de la parole. On a exactement la même idée dans le chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, où l'auteur, donc les orientaux disent que c'est Paul, l'auteur dit « Vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. » Vous voyez, la même expression que dans 1 Corinthiens 3. Et là, l'auteur va dire encore que la nourriture solide, c'est pour les hommes mûrs, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner le bien et le mal. Par la mise en pratique de la parole de Dieu, évidemment. Donc, vous voyez, cette notion de nourriture, elle est importante, et il faut vraiment, je pense, l'associer à l'œuvre de Pâques. Dans l'œuvre de Pâques, l'œuvre de la croix, on va parler de l'union à Jésus en sa mort, de l'union en Jésus à sa vie. Mais cette notion de pain sans levain, un pain d'abord de levain des pharisiens, qui devient un pain sans levain, puis un pain rempli du levain du royaume de Dieu. Voilà, c'est une autre manière d'exprimer ce que Paul dit dans 1 Romains 6, union en Jésus en sa mort, union en Jésus dans sa résurrection. Donc manger le corps de Jésus, ce n'est pas simplement recevoir un symbole, mais c'est vouloir entrer dans une vie d'obéissance avec le Seigneur. Et je rappelle là le passage dans Hébreux 5, il a appris, Jésus, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc ça, ce sont des thèmes que j'ai déjà évoqués lors des derniers messages. Il y a une part de souffrance qui est nécessaire dans la vie chrétienne, parce que notre chair réclame. Et l'œuvre de la croix consiste à éteindre les appétits de la chair. Et le dernier mot, qui est le mot de conclusion, un dernier mot de conclusion qui m'avait frappé dans, là encore, le texte de ce matin, où il est question, à la fin, fêtons ou célébrons la fête avec le levain de pureté et de sainteté. Est-ce que l'un de vous peut me dire ce que vous avez dans votre traduction en français? Il est question d'un pain sans levain, de quoi? Que quelqu'un peut me le dire? Vous m'entendez?
Dans la pureté et dans la vérité.
Voilà, dans la pureté et la vérité, ou selon d'autres traductions, un pain sans levain de sincérité et de vérité. Ici, il est question d'un levain de pureté, et c'est vraiment le mot pureté, hein, de pureté et de sainteté. Et ça, ça m'a frappé, parce que on retrouve exactement ce même enchaînement, le passage de la pureté à la sainteté, dans la vie des apôtres. Et toujours dans l'évangile de Jean, c'est dans Jean au chapitre 13 que Jésus va dire « Vous êtes purs ». Et ensuite il devra dire « Mais pas tous », pensant évidemment à Judas. Mais il va leur dire « Vous êtes purs ». Ça, c'est Jean au chapitre 13. Et ensuite, dans Jean, chapitre 14, 15 et 16, je vous enverrai l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, le Saint-Esprit. Et on voit donc dans cet enchaînement, Jean 13, 14, 15 et 16, un enchaînement qui va de la pureté à la sainteté, qui va de la Pâque à la Pentecôte. Parce que Jean 14, 15, 16, c'est la venue du Consolateur, c'est-à-dire l'Esprit de Pentecôte. Donc c'est intéressant que quand Paul parle du levain de pureté et de sainteté, il trace un chemin. Il va de la pureté qui vient du fait d'avoir enlevé le levain des pharisiens et des sadducéens et des hérodiens, ce levain religieux, ces intrigues politico-religieuses qui animent malheureusement une partie du monde chrétien aujourd'hui même, et se débarrasser de ça pour revêtir, pour se nourrir plutôt, du levain du royaume de Dieu, un royaume qui, je le rappelle, n'est pas de ce monde. C'est ce que Jésus confesse devant Pilate dans Jean 18. Donc voilà, voilà ce que je voulais partager ce matin. C'est une chose que d'enlever le vieux levain, de se repentir dans la lumière de la parole de Dieu. Mais c'en est une autre de se nourrir de ce pain nouveau, de ce pain de vie, le pain du royaume de Dieu. Et on voit là un exemple très concret de ce levain qui va faire lever la pâte en nous si notre préoccupation est avec un royaume qui n'est pas de ce monde. Et à nouveau, comme je l'ai dit, l'actualité nous montre combien une fausse conception du royaume revient à prendre des positions qui sont étonnamment antichrétienne. Donc faisons attention à cela, veillons à le type de pain dont nous nourrissons, et considérons, et je le répète, que la source et le moteur de la vie chrétienne consiste à se nourrir de Jésus, et concrètement, se nourrir de Jésus, c'est communier avec lui, avec tous les moyens dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, que le Seigneur puisse bénir sa parole en ce beau jour de Pâques, le jour de la résurrection. Donc je rappelle que dans la chronologie, Jésus est ressuscité le samedi soir, au tout début du Shabbat, et il apparaît le lendemain matin aux premiers témoins de la résurrection qui étaient des femmes. Donc le dimanche matin, 3 jours et demi après sa mise à mort et son mise dans le tombeau. Voilà.